From the conference center at Temple Square in Salt Lake.
Ici, le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City. Vous allez assister à la réunion de la prêtrise de la 51e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Cette session est diffusée à des milliers d'églises de par le monde. La musique de cette session sera interprétée par un chœur de la prêtrise des instituts d'Ogden et de Logan en Utah aux États-Unis.
President Henry B. Eyring,
premier conseiller dans la première présidence de l'Église, dirigera la session de la prêtrise de ce soir.
We welcome you, brethren.
Mes frères, nous vous souhaitons la bienvenue à la session générale de la prêtrise de la 181e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Le président Thomas S. Monson, qui préside cette conférence, m'a demandé de diriger cette session. Cette réunion est transmise par satellite aux détenteurs de la prêtrise réunis en de nombreux endroits du monde. Les chants de cette session seront interprétés par un chœur de la prêtrise des instituts d'Ogden et de Logan en Utah sous la direction de Gerald F. Simon, J. Niles Salmon et Alan T. Saunders avec Andrew Unsworth à l'orgue. Le chœur ouvrira ce service religieux en chantant See the Mighty Priesthood Gathered. La prêtrise, prière d'ouverture, sera offerte par Raphaël E. Pino des 70.
Father, joyfully serving. Our Heavenly Father,
notre Père Céleste, au début de cette session, nous sommes reconnaissants de l'occasion qui est la nôtre d'être assemblés dans de nombreux endroits dans le monde entier. Nous voulons exprimer notre gratitude et reconnaissance pour notre Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes reconnaissants pour cette invitation à venir à lui. Nous te remercions pour l'évangile rétabli et pour notre prophète vivant. Nous te demandons de bénir notre prophète bien-aimé, président Thomas S. Monson, ses conseillers et le Collège des Douze. Nous te demandons de recevoir ton aide, pas de l'Esprit, pour être dirigé dans cette réunion. Nous prions que nous puissions apprendre et comprendre davantage les principes et les doctrines qui sont nos responsabilités en tant que détenteurs de la prêtrise. S'il te plaît, Père, aide-nous à augmenter notre foi et nous disons ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.
The choir will now favor us.
Le chœur va maintenant interpréter Guide Me to Thee. Après ce chant, Elder Neil L. Anderson du Collège des Douze Apôtres s'adressera à nous. Nous entendrons ensuite Elder Stephen E. Snow de la présidence des 70. Il sera suivi par frère Larry M. Gibson, premier conseiller dans la présidence générale des jeunes gens.
Jesus, my Savior, true guide me to Thee.
Ce soir, je m'adresse particulièrement aux jeunes de 12 à 25 ans qui détiennent la prêtrise de Dieu. Nous pensons souvent à vous et nous prions pour vous. Un jour, j'ai raconté que notre petit-fils de 4 ans avait poussé vigoureusement son petit frère. Après avoir consolé l'enfant qui pleurait, ma femme, Cathy, s'est tournée vers celui de 4 ans et lui a demandé gentiment « Pourquoi as-tu poussé ton petit frère ?» Il a regardé sa grand-mère et a répondu « Mimi, je regrette. J'ai perdu ma BAC CLB et je ne peux plus choisir le bien. » Nous savons que vous faites beaucoup d'efforts pour toujours choisir le bien. Nous vous aimons beaucoup. Avez-vous déjà pensé à la raison pour laquelle vous avez été envoyé sur Terre à cette époque précise? Vous n'êtes pas né à l'époque d'Adam et Ève, ni quand les pharaons gouvernaient l'Égypte, ni pendant la dynastie des Ming. Vous êtes venu sur Terre à cette époque, 20 siècles après la première venue du Christ. La prêtrise de Dieu a été rétablie sur Terre, et le Seigneur a étendu la main pour préparer le monde en vue de son retour glorieux. Nous vivons à une époque de grandes possibilités et d'importantes responsabilités. Cette époque est la vôtre. Par votre baptême, vous avez proclamé votre foi en Jésus-Christ. Par votre ordination à la prêtrise, vos talents et vos capacités spirituelles ont été augmentés. L'une de vos importantes responsabilités consiste à aider le monde à se préparer à la seconde venue du Sauveur. Le Seigneur a désigné un prophète, le président Thomas S. Monson, pour diriger l'œuvre de sa prêtrise. Le président Monson vous a dit, « Le Seigneur a besoin de missionnaires. Chaque jeune homme digne et qui en est capable doit se préparer à faire une mission. Le service missionnaire est un devoir de la prêtrise, une obligation dont le Seigneur attend que vous vous acquittiez, vous à qui tant a été donné. Le service missionnaire exige des sacrifices. Vous laisserez toujours quelque chose derrière vous lorsque vous répondrez à l'appel du prophète au service. Les personnes qui suivent le rugby savent que l'équipe néo-zélandaise des All Blacks, nommée ainsi en raison de la couleur de son uniforme, est l'équipe de rugby la plus célèbre du monde. En Nouvelle-Zélande, une sélection chez les All Blacks équivaudrait à faire partie d'une équipe de football américain qui participe au Super Bowl ou à une équipe de football qualifiée pour la Coupe du Monde. En 1961, lorsqu'il avait 18 ans et détenait la prêtrise d'Aaron, Sidney Going était en train de devenir une star du rugby néo-zélandais. Du fait de ses capacités remarquables, beaucoup de gens pensaient qu'il allait être sélectionné chez les All Blacks l'année suivante. À 19 ans, à ce moment décisif de sa carrière qui s'annonçait prometteuse, Sid a déclaré qu'il allait renoncer au rugby pour faire une mission. Certains ont dit qu'il était fou, d'autres ont dit qu'il était idiot. Ils ont protesté en objectant que cette occasion ne se représenterait peut-être jamais. Quant à Sid, ce que lui importait n'était pas ce qu'il laissait derrière lui, mais les possibilités et la responsabilité qu'il attendait. Il avait le devoir de la prêtrise d'offrir 2 ans de sa vie pour proclamer la réalité du Seigneur Jésus-Christ et de son évangile rétabli. Rien, pas même la possibilité de jouer dans l'équipe nationale, avec toute la renommée qui l'accompagnerait, ne l'empêcherait de remplir ce devoir. Il a été appelé par un prophète de Dieu à servir dans la mission de l'Ouest du Canada. Il y a 48 ans, ce mois-ci, Sidney Going, alors âgé de 19 ans, a quitté la Nouvelle-Zélande pour être missionnaire de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Il m'a raconté une expérience de sa mission. Un soir, son collègue et lui étaient sur le point de rentrer à leur appartement. Ils ont décidé d'aller voir une famille de plus. Le père les a laissés entrer. Frère Going et son collègue lui ont témoigné du Sauveur. La famille a accepté un livre de Mormon. Le père l'a lu toute la nuit. Une semaine et demie après, il avait lu le livre de Mormon en entier, les Doctrines et Alliances et la Perle de Grand Prix. Quelques semaines plus tard, la famille se faisait baptiser. Une mission, au lieu d'une place dans l'équipe des All Blacks, Sid a répondu, « La bénédiction d'emmener d'autres personnes à l'Évangile vaut bien plus que tout ce que vous pourriez sacrifier. » Vous vous demandez peut-être ce qui est arrivé à Sid Going après sa mission. Le plus important, un mariage éternel avec sa petite amie Colleen, 5 enfants formidables et de nombreux petits-enfants. Il a mené sa vie en faisant confiance à son Père Céleste, en respectant les commandements et en servant autrui. Et le rugby? Après sa mission, Sid Going est devenu l'un des plus grands demi de mêlée de l'histoire des All Blacks. Et il a joué pendant 11 saisons dans cette équipe et en a été le capitaine pendant de nombreuses années. Est-ce que Sid Going était vraiment bon? Il était si bon que l'on a changé les jours d'entraînement et de match parce qu'il ne voulait pas jouer le dimanche. Il était si bon que la reine d'Angleterre a salué sa contribution au rugby. Il était si bon qu'on a écrit sur lui un livre intitulé « Super Sid ». Qu'est-ce qui se serait passé s'il n'avait pas reçu ses honneurs après sa mission? L'un des grands miracles du service missionnaire dans cette église, c'est que Sid Going et des milliers d'autres personnes n'ont pas demandé « Qu'est-ce que ma mission va m'apporter ?» mais « Qu'est-ce que je peux donner ?» Votre mission sera une occasion sacrée d'amener des gens au Christ et de participer à la préparation de la seconde venue du Sauveur. Le Seigneur a beaucoup parlé des préparatifs nécessaires à sa seconde venue. Il a déclaré à Enoch, « Je ferai descendre la justice des cieux, et je ferai monter la vérité de la terre, et je ferai en sorte que la justice et la vérité balayent la terre comme un flot, pour rassembler mes élus des 4 coins de la terre. » Le prophète Daniel a prophétisé que, dans les derniers jours, l'Évangile roulerait jusqu'aux extrémités de la terre, comme une pierre détachée d'une montagne, sans le secours d'aucune main. Néphi a dit que l'Église des derniers jours compterait peu de fidèles, mais serait répandue sur toute la surface de la terre. Le Seigneur a déclaré dans notre dispensation, « Vous êtes appelés à réaliser le rassemblement de mes élus. » Mes jeunes frères, votre mission est une grande possibilité et une grande responsabilité. Elle est importante pour ce rassemblement promis et lié à votre destinée éternelle. Depuis les premiers jours du rétablissement, les frères ont pris leur responsabilité de proclamer l'Évangile très au sérieux. En 1837, 7 ans seulement après l'organisation de l'Église, à une époque de pauvreté, de persécution, des missionnaires ont été envoyés enseigner l'Évangile en Angleterre. Quelques années plus tard, les missionnaires prêchaient dans des endroits aussi variés que l'Australie, la Polynésie française, l'Inde, la Barbade, le Chili et la Chine. Le Seigneur a béni cette œuvre et l'Église s'implante dans le monde entier. Cette réunion est interprétée en 93 langues. Nous sommes reconnaissants envers les 52 225 missionnaires qui se trouvent dans 150 pays. À n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, il y a toujours quelque part dans le monde des missionnaires justes qui témoignent du Sauveur. Pensez au pouvoir spirituel des 52 000 missionnaires, dotés de l'Esprit du Seigneur, déclarant hardiment qu'il n'y a aucun autre nom donné, ni aucune autre voie, ni moyen par lesquels le salut puisse parvenir, si ce n'est dans et par le nom du Christ. Nous remercions les dizaines de milliers d'anciens missionnaires qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes et qui continuent de le faire. C'est dans une grande mesure, grâce à l'œuvre du Seigneur accomplie par l'intermédiaire de ces missionnaires, que le monde se prépare à sa seconde venue. Le service missionnaire est une œuvre spirituelle. La dignité et la préparation sont essentielles. Le président Monson a dit, « Jeunes gens, Je vous exhorte à vous préparer au service missionnaire. Restez purs et dignes de représenter le Seigneur. Pendant les années qui précèdent votre mission, rappelez-vous, s'il vous plaît, de la responsabilité sacrée qui vous attend. Vos actes avant votre mission influenceront grandement le pouvoir de la prêtrise que vous apporterez avec vous en mission. Préparez-vous bien. Le président Monson a dit que tout jeune homme digne et capable devait se préparer à faire une mission. Il arrive que quelqu'un ne puisse pas faire une mission, du fait de sa santé ou pour d'autres raisons. Vous saurez si vous êtes en mesure de faire une mission si vous en parlez à vos parents et à votre évêque. Si vous n'êtes pas en mesure d'en faire une, ne vous sentez pas dévalorisé, car la tâche noble qui vous attend n'est pas moins importante. Le Seigneur est très généreux avec ceux qu'il aime, et il vous ouvrira des portes, d'autres portes. Certains d'entre vous se demandent s'ils ne sont pas trop vieux pour faire une mission. L'un de mes amis, qui vient de Chine, a rencontré l'Église au Cambodge lorsqu'il avait environ 25 ans. Il s'est demandé s'il était toujours temps d'aller en mission. Après avoir prié, en avoir parlé à son évêque, il a été appelé en mission et a œuvré noblement à New York. Si votre âge vous préoccupe, priez et parlez avec votre évêque. Il vous guidera. 50% des missionnaires sont appelés à servir dans leur pays natal. Et c'est bien ainsi. Le Seigneur a promis que chaque homme entendrait la plénitude de l'Évangile dans sa propre langue et dans son propre langage. Vous serez appelés par prophétie et irez à l'endroit où l'on aura le plus besoin de vous. J'aime rencontrer les missionnaires du monde entier. Est-ce que vous savez qui j'ai rencontré dernièrement en allant dans la mission de Sydney? Elder Sidney Going, la légende du rugby néo-zélandais. À l'âge de 67 ans, il est de nouveau missionnaire. Mais cette fois, il a choisi la personne avec qui il fait équipe, sa femme, Colleen. Il m'a parlé d'une famille à qui ils ont pu enseigner l'Évangile. Les parents étaient membres, mais cela faisait des années qu'ils n'étaient plus pratiquants. Frère et sœur Going ont aidé cette famille à retrouver la foi. Frère Going m'a parlé du pouvoir qu'il a ressenti lorsqu'il était à côté du père de la famille, près des fonts baptismaux, et que le fils aîné, qui détenait maintenant la prêtrise, avait baptisé sa sœur et son frère cadet. Il a exprimé la joie de voir une famille unie, engagée sur le chemin de la vie éternelle. La première présidence s'est adressée à vous en ces termes. Vous êtes un esprit d'élite et vous êtes né à une époque où les responsabilités et les possibilités d'avenir, tout comme les tentations, sont les plus grandes. Nous prions pour vous, afin que vous soyez en mesure d'accomplir la grande œuvre qui vous attend. Nous prions pour que vous soyez dignes et désireux de reprendre à votre compte la responsabilité de l'édification du royaume de Dieu et de la préparation du monde à la seconde venue du Sauveur. J'aime la représentation que Harry Anderson a faite de la seconde venue du Sauveur. Elle me rappelle que le Seigneur viendra en majesté et avec pouvoir. Des événements stupéfiants vont se produire sur la terre et dans le ciel. Les personnes qui attendront la venue du Sauveur le rechercheront. Et il a promis, « Je viendrai ». Les justes le verront dans les nuées du ciel avec tous les saints anges, revêtus de puissance et d'une grande gloire. Un ange sonnera de la trompette, et les saints des quatre coins de la terre seront enlevés à sa rencontre. Ceux qui auront dormi, c'est-à-dire les saints dignes qui seront morts, sortiront pour venir à sa rencontre. L'Écriture dit, « Le Seigneur posera le pied sur la montagne. Il fera entendre sa voix, et toutes les extrémités de la terre l'entendront. » mes jeunes frères de la prêtrise. Je témoigne de la majesté et surtout de la certitude de cet événement magnifique. Le Sauveur vit. Il reviendra sur terre. Et que ce soit de ce côté du voile ou de l'autre, nous nous réjouirons, vous et moi, de sa venue. Et nous remercierons le Seigneur de nous avoir envoyés sur terre à cette époque pour remplir notre devoir sacré, d'aider le monde à se préparer à son retour. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Notre famille a grandi dans le désert montagneux du sud de l'Utah. La pluie y est rare et chacun nourrit l'espoir qu'il y en aura suffisamment pour que l'on puisse supporter la chaleur de l'été à venir. Quand j'étais jeune, tout comme maintenant, nous espérions la pluie, nous prions pour avoir de la pluie et dans les pires moments, nous jeûnions pour qu'il pleuve. On raconte l'histoire d'un grand-père qui emmena en ville son petit-fils âgé de 5 ans. Ils finirent par arriver à une petite épicerie dans la rue principale où ils s'arrêtèrent pour boire une limonade fraîche. Une voiture venant d'un autre état s'arrêta et le conducteur s'adressa au grand-père. Désignant un petit nuage dans le ciel, l'inconnu demanda « Pensez-vous qu'il va pleuvoir ?» Le vieil homme répondit « J'espère bien. Si ce n'est pas pour moi, que ce soit pour le garçon. J'ai déjà vu la pluie tomber. » L'espérance est une émotion qui enrichit notre vie quotidienne. On la définit comme étant le sentiment que tout va s'arranger. Quand nous espérons, nous regardons vers l'avenir avec un désir et une confiance raisonnable. Par conséquent, l'espoir exerce une certaine influence apaisante sur notre vie parce que nous attendons avec confiance des événements futurs. Parfois, nous espérons des choses sur lesquelles nous n'avons que peu ou pas de contrôle. Nous espérons qu'il fera beau. Nous espérons que le printemps sera en avance. Nous espérons que notre équipe sportive favorite gagnera la Coupe du monde de football, le championnat de football américain ou le championnat américain de baseball. Ces espoirs rendent notre vie intéressante et peuvent souvent conduire à des comportements excentriques ou même superstitieux. Par exemple, mon beau-père aime beaucoup le sport. Mais il est convaincu que s'il ne regarde pas son équipe de basket favorite à la télévision, elle a davantage de chances de gagner. Quand j'avais 12 ans, j'insistais pour porter la même paire de chaussettes sales lors de chaque match de baseball de la Ligue Junior, dans l'espoir de gagner. Ma mère me les faisait mettre dans la véranda, derrière la maison. À d'autres moments, nos espérances peuvent donner naissance à des rêves qui peuvent nous inspirer et nous conduire à l'action. Si nous espérons mieux travailler à l'école, cette espérance peut se réaliser par l'étude consciencieuse et le sacrifice. Si nous espérons jouer dans une équipe gagnante, cette espérance peut nous amener à sérieusement nous entraîner, nous investir, jouer en équipe et finalement à réussir. Roger Bannister était un étudiant en médecine anglais qui avait une espérance ambitieuse. Il voulait être le premier homme à réussir à courir le mile en moins de 4 minutes. Pendant la majeure partie de la première moitié du XXe siècle, les fans d'athlétisme ont attendu avec impatience le jour où le record des 4 minutes serait battu. Au cours des années, beaucoup de coureurs remarquables s'en sont approchés sans l'atteindre. Bannister s'est astreint à un programme d'entraînement ambitieux dans l'espoir d'atteindre son but d'établir un nouveau record mondial. Certains membres de la communauté sportive avaient commencé à douter que l'on puisse franchir la limite des 4 minutes. De présumés experts avaient émis l'hypothèse que le corps humain était physiologiquement incapable de courir à une telle vitesse sur une si longue distance. Au cours de la journée nuageuse du 6 mai 1954, la grande espérance de Roger Bannister s'est réalisée. Il a franchi la ligne d'arrivée en 3 minutes, 59 secondes et 4 dixièmes, établissant ainsi un nouveau record mondial. Son espérance de courir le mile en moins de 4 minutes est devenue un rêve qui s'est réalisé par l'entraînement, le travail acharné et la consécration. L'espérance peut inspirer des rêves et nous encourager à les réaliser. Cependant, l'espérance seule ne nous mène pas au succès. De nombreuses espérances honorables ne se sont pas réalisées parce qu'elles se sont brisées sur les récifs des bonnes intentions et de la paresse. En tant que parents, nos plus chères espérances tournent autour de nos enfants. Nous espérons qu'ils grandiront pour mener une vie responsable et juste. Ces espérances peuvent être facilement anéanties si nous ne sommes pas de bons exemples. L'espérance seule ne signifie pas que nos enfants grandiront en justice. Nous devons passer du temps avec eux lors des soirées et d'activités familiales profitables. Nous devons leur enseigner à prier. Nous devons lire les Écritures avec eux et leur enseigner des principes importants de l'Évangile. Ce n'est qu'à ce prix que nos plus chers désirs se réaliseront. Nous ne devons jamais laisser le désespoir remplacer l'espérance. L'apôtre Paul a écrit que nous devons labourer avec espérance. L'espérance enrichit notre vie et nous aide à nous réjouir de voir arriver l'avenir. Que nous labourions dans un champ pour planter ou que nous labourions dans la vie, il est impératif que nous, saints des derniers jours, nous ayons l'espérance. Dans l'évangile de Jésus-Christ, l'espérance est le désir de ses disciples d'acquérir le salut éternel grâce à l'expiation du Sauveur. C'est vraiment l'espérance que nous devons tous avoir. C'est ce qui nous distingue du reste du monde. Pierre a exhorté les premiers disciples du Christ à être toujours prêts à se défendre avec douceur et respect devant quiconque leur demanderait raison de l'espérance qui était en eux. Notre espérance en l'expiation nous donne le pouvoir d'une perspective éternelle. Cette perspective nous permet de regarder au-delà du quotidien vers la promesse des éternités futures. Nous ne sommes pas obligés de nous laisser piéger par les limites étroites des attentes capricieuses de la société. Nous sommes libres de nous réjouir à l'idée d'atteindre la gloire céleste, scellée à notre famille et à nos êtres chers. Dans l'Évangile, l'espérance est presque toujours liée à la foi et à la charité. Dieter F. Uchtdorf a enseigné « L'espérance, la foi et la charité sont les trois pieds d'un tabouret. À elles trois, elles stabilisent notre vie, même si nous nous trouvons parfois sur un sol rugueux ou inégal. » Dans le dernier chapitre du livre de Mormon, Moroni écrit « C'est pourquoi il faut qu'il y ait la foi. Et s'il faut qu'il y ait la foi, il faut aussi qu'il y ait l'espérance. Et s'il faut qu'il y ait l'espérance, il faut aussi qu'il y ait la charité. Et si vous n'avez pas la charité, vous ne pouvez en aucune façon être sauvé dans le royaume de Dieu. Et vous ne pouvez pas non plus être sauvé dans le royaume de Dieu si vous n'avez pas la foi. Et vous ne le pouvez pas non plus si vous n'avez pas l'espérance. » Russell M. Nelson enseigne « La foi puise ses racines en Jésus-Christ. L'espérance a l'expiation pour fondement. La charité se manifeste dans l'amour pur du Christ. Ces trois attributs sont entrelacés comme les brins d'un câble et peuvent ne pas toujours se distinguer les uns des autres avec précision. Ensemble, ils nous rattachent au royaume céleste. » À la fin de ses annales, quand Néphi a prophétisé sur Jésus-Christ, il a écrit « C'est pourquoi vous devez marcher résolument avec constance dans le Christ, ayant une espérance d'une pureté parfaite et l'amour de Dieu et de tous les hommes. » Cette espérance d'une pureté parfaite dont parle Néphi est l'espérance en l'expiation, qui est le salut éternel que le sacrifice de notre Sauveur a rendu possible. Cette espérance a amené tout au long de l'histoire des hommes et des femmes à faire des choses remarquables. Les apôtres de jadis ont parcouru la terre en témoignant de lui, et ils ont finalement donné leur vie à son service. Dans cette dispensation, beaucoup des premiers membres de l'Église sont partis de chez eux, le cœur plein d'espérance et de foi, et ont traversé les grandes plaines pour rejoindre la vallée du lac Salé. En 1851, Mary Murray Murdoch entra dans l'Église en Écosse, alors qu'elle était veuve et avait 67 ans. Petite femme d'1m40, qui pesait à peine 41 kilos, elle eut 8 enfants, dont 6 vécurent jusqu'à l'âge adulte. En raison de sa taille, ses enfants et ses petits-enfants l'appelaient affectueusement « petite grand-mère ». Son fils, John Murdoch, devint aussi membre de l'Église avec sa femme et ses deux enfants et émigra en Utah en 1852. 4 ans plus tard, John envoya à sa mère les fonds nécessaires pour qu'elle puisse rejoindre sa famille à Salt Lake City. Avec une espérance plus grande que sa petite taille, Marie entreprit le voyage ardu vers l'Ouest et rejoignit l'Utah à l'âge de 74 ans. Après avoir traversé l'Atlantique sans encombre, elle finit par rejoindre le malheureux convoi de charrettes Abraham Martin. Le 28 juillet, ces pionniers commencèrent leur voyage vers l'Ouest. On connaît bien les souffrances des membres de ce convoi. Près d'un quart des 575 membres du groupe mourut avant d'arriver en Utah. Davantage auraient péri si une équipe de secours organisée par Brigham Young n'était pas venue avec des chariots et des vivres à la rencontre des saints échoués et bloqués dans la neige. Mary Murdoch décéda le 2 octobre 1856 près de Chimney Rock, au Nebraska. Elle y avait succombé à la fatigue, au froid et aux privations du voyage. Son corps frêle ne put tout simplement pas résister aux privations physiques que les saints rencontraient. Tandis qu'elle se raccrochait à la vie, ses pensées se tournèrent vers sa famille en Utah. Les derniers mots de cette fidèle pionnière furent « Dites à John que je suis morte, le visage tourné vers Sion ». Mary Murray Murdoch incarne l'espérance et la foi de tant des premiers pionniers qui ont entrepris le courageux voyage vers l'Ouest. Les voyages spirituels d'aujourd'hui requièrent tout autant d'espérance et de foi que ceux des premiers pionniers. Nos difficultés peuvent être différentes, mais les luttes sont tout aussi grandes. Je prie pour que nos espérances nous conduisent à l'accomplissement de nos rêves justes. Je prie particulièrement pour que notre espérance en l'expiation fortifie notre foi et notre charité et nous donne la perspective éternelle de notre vie future. Puissions-nous tous avoir cette espérance d'une pureté parfaite. C'est là ma prière, au nom de Jésus-Christ. Amen.
One of my sons, at age 12,
un de mes fils, à l'âge de 12 ans, a décidé d'élever des lapins. Nous avons construit des clapiers et acheté un voisin, un gros mâle et deux femelles. Je ne savais pas dans quoi nous nous ferions. En très peu de temps, notre abri débordait de lapins. Maintenant que mon fils est grand, je dois avouer mon étonnement devant la manière dont la population de nos lapins a été contrôlée. Le chien d'un voisin pénétrait occasionnellement dans l'abri et mangeait quelques lapins. Mais j'ai eu le cœur touché en voyant mon fils et ses frères protéger ces lapins et veiller sur eux. Et maintenant qu'ils sont mariés et pères, ils sont des détenteurs de la prêtrise digne qui aiment et qui fortifient leur famille et qui veillent sur elles. Cela me touche de vous voir, jeunes gens de la prêtrise d'Aaron, soutenir et fortifier les personnes qui vous entourent, y compris votre famille et les membres de votre collège, et de veiller sur elles comme je vous aime. J'ai observé récemment la mise à part d'un jeune homme de 13 ans au poste de président du collège de diacres. Après cela, l'évêque lui a serré la main et l'a appelé président. Il a expliqué aux membres du collège qu'il l'avait appelé président pour accentuer le caractère sacré de son appel. Le président du collège des diacres est l'une des 4 personnes de la paroisse à détenir des clés de présidence. Avec ses clés et ses conseillers, il dirige le collège sous l'inspiration du Seigneur. Cet évêque comprenait le pouvoir d'une présidence dirigée par un président qui détient et qui exerce des clés sacrées. Par la suite, j'ai demandé au jeune homme s'il était prêt à présider ce grand collège. Il m'a répondu, « Je suis inquiet. Je ne sais pas ce que fait un président de collège de diacres. Pouvez-vous me le dire ?» Je lui ai dit qu'il avait un épiscopat et des consultants excellents qui l'aideraient à devenir un dirigeant de la prêtrise fort et efficace. Je savais qu'il respecterait les clés sacrées de présidence qu'il détenait. Je lui ai alors posé cette question. Penses-tu que le Seigneur te donnerait cet appel important sans te donner des instructions ? Il a réfléchi, puis il a déclaré, « Où est-ce que je les trouve ?» Après en avoir discuté, il s'est rendu compte qu'il trouverait des instructions dans les Écritures, dans les paroles des prophètes vivants et dans les réponses aux prières. Nous avons décidé de trouver un passage des Écritures qui serait le point de départ de sa recherche pour apprendre des responsabilités de son nouvel appel. Nous avons ouvert la section 107 des Doctrines d'Alliance au verset 85. Ce verset dit que le président du collège des diacres doit siéger en conseil avec les membres de son collège et leur enseigner leurs devoirs. Nous avons fait la réflexion que son collège n'est pas une classe, mais un conseil de jeunes gens et qu'ils doivent se fortifier et s'édifier les uns les autres sous la direction du président. J'ai exprimé ma confiance qu'il serait un excellent président qui s'appuierait sur l'inspiration du Seigneur et qui magnifierait son appel sacré lorsqu'il enseignerait leurs devoirs à ses camarades. Puis j'ai demandé, tu dois enseigner leurs devoirs aux diacres, mais sais-tu ce qu'ils sont? Nous avons de nouveau vers les Écritures et nous avons trouvé, premièrement, le diacre est chargé de veiller sur l'Église et d'en être un ministre permanent. La famille étant la cellule de base de l'Église, le cadre le plus important où un détenteur de la prêtrise d'Aaron peut accomplir ce devoir est chez lui. Il apporte le soutien de la prêtrise à son père et à sa mère, tandis qu'il dirige la famille. Il veille aussi sur ses frères et sœurs, sur les jeunes gens de son collège et sur les autres membres de la paroisse. Deuxièmement, le diacre aide l'instructeur dans tous ses devoirs dans l'Église si les circonstances l'exigent. Nous avons conclu que si le diacre doit aider l'instructeur dans ses devoirs, il faut qu'il les connaisse. Nous avons consulté les Écritures et trouvé rapidement plus d'une douzaine de devoirs de l'office d'instructeur. Ce serait une merveilleuse expérience si chaque jeune homme, ainsi que son père, son consultant, et nous tous faisons exactement ce que ce jeune homme a fait, lire les Écritures et découvrir par soi-même quels sont ses devoirs. Je pense que beaucoup d'entre nous seront surpris et inspirés par ce qu'ils trouveront. Accomplir mon devoir envers Dieu contient de nombreux résumés des devoirs de la prêtrise d'Aaron et est une excellente ressource pour le développement spirituel. Je vous exhorte à l'utiliser constamment. Troisièmement, les diacres et les instructeurs doivent aussi avertir, expliquer, exhorter et enseigner et inviter tout le monde à aller au Christ. De nombreux jeunes gens pensent que leur mission commence quand ils ont 19 ans et qu'ils entrent au centre de formation des missionnaires. Nous apprenons des Écritures qu'elles commencent bien avant cela. Le Seigneur veut que chaque détenteur de la prêtrise d'Aaron invite tout le monde à aller au Christ, à commencer par sa propre famille. Ensuite, pour aider ce jeune président à comprendre qu'il était le seul à être l'officier président du collège, je lui ai conseillé de lire trois fois le premier devoir indiqué dans Doctrine Alliance 107, verset 85. Il a lu « Présider 12 diacres ». Présider 12 diacres. J'ai demandé, qu'est-ce que le Seigneur est en train de te dire personnellement concernant ton devoir de président? Eh bien, dit-il, plusieurs choses me sont venues à l'esprit pendant que nous parlions. Je pense que mon Père Céleste veut que je sois le président de 12 diacres. Il n'y a que 5 qui viennent, et un qui vient seulement de temps en temps. Alors comment faire pour qu'il y en ait 12? Je n'avais jamais interprété ce passage comme lui. Mais il détenait des clés sacrées que je n'avais pas. Un président de collège, de diacre, de 13 ans, était en train de m'enseigner le pouvoir de révélation qui est donné aux personnes ayant les clés sacrées de présidence, quelle que soit leur intelligence, leur stature ou leur âge. J'ai répondu, « Je ne sais pas, qu'en penses-tu ?» Et il a dit, « Nous devons trouver comment faire pour qu'ils continuent à venir. Je sais qu'il y en a deux autres qui doivent être dans notre collège, mais ils ne viennent pas et je ne les connais pas. Je pourrais peut-être me lier d'amitié avec l'un et demander à mes conseillers de s'occuper des autres. » S'ils venaient tous, nous serions 7. Mais où en trouver 5 de plus? Ma réponse fut, je ne sais pas. Mais si notre Père Céleste les veut ici, lui le sait. Alors nous devons prier en tant que présidence et collège et trouver ce qu'il faut faire. Il a alors demandé, suis-je responsable de tous les garçons de la paroisse qui ont l'âge d'être diacres, même de ceux qui ne sont pas membres? Admiratif, j'ai dit, dans l'optique du Seigneur, est-ce que ton évêque est responsable uniquement des membres de la paroisse ou de toutes les personnes qui vivent dans ses limites? Ce jeune ministre permanent avait compris. Il était conscient du rôle qu'a chaque diacre, instructeur et prêtre de veiller sur l'Église et d'inviter tout le monde à aller au Christ. Quand je pense aux remarquables jeunes de l'Église, il y a un passage d'Écriture qui me vient à l'esprit. Un passage que Moroni cite à Joseph Smith en lui disant que cela n'était pas encore accompli, mais le serait bientôt. Je cite, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. » Ce qui est apparu à l'esprit de ce jeune président, c'est une vision de ce que notre Père Céleste veut que son collège soit. C'est la révélation dont il avait besoin pour renforcer les membres actifs de son collège, secourir ceux qui étaient en difficulté et inviter tout le monde à aller au Christ. Ainsi inspiré, il a élaboré des plans pour accomplir la volonté du Seigneur. Le Seigneur a enseigné à ce jeune président que détenir la prêtrise signifie tendre la main pour servir les autres, comme l'explique Thomas Esmondson, notre prophète bien-aimé. Je cite, « La prêtrise n'est pas tant un don que la mission de servir, le droit sacré d'édifier et l'occasion de bénir autrui. » Le service est le fondement même de la prêtrise, le service d'autrui dont le Sauveur a donné l'exemple. Je témoigne que c'est sa prêtrise, nous sommes à son service, et il a montré à tous les détenteurs de la prêtrise la voie du service fidèle dans la prêtrise. J'invite chaque présidence de collège à tenir conseil, étudier, prier régulièrement pour connaître la volonté du Seigneur pour son collège et ensuite à passer à l'action. Utiliser, accomplir mon devoir envers Dieu pour vous aider à enseigner aux membres du collège leur devoir. J'invite chacun d'entre vous, membres du collège, à soutenir votre président de collège et à vous tourner vers lui pour qu'il vous conseille dans l'apprentissage et l'accomplissement en justice de vos devoirs en prêtrise. Et j'invite chacun de nous à voir ces jeunes gens remarquables, comme le Seigneur les voit, une immense ressource pour bâtir et renforcer son royaume dès maintenant. Vous, jeunes gens merveilleux qui détenez la prêtrise d'Aaron, rendu à Joseph Smith et Oliver Codry par Jean-Baptiste près d'Harmony en Pennsylvanie, votre prêtrise détient les clés sacrées qui ouvrent la porte à tous les enfants de notre Père Céleste pour qu'ils aillent à son Fils, Jésus-Christ, et le suivent. Cela grâce à l'évangile de repentir et de baptême par immersion pour la rémission des péchés, l'ordonnance hebdomadaire de la Sainte Cène et le ministère d'ange. Vous êtes vraiment des ministres du culte qui devez être des hommes de la prêtrise pure, digne et fidèle en tout temps et en tout lieu. Pourquoi? Écoutez les paroles de notre première présidence bien-aimée qui les adresse à chacun de vous. Je cite, « Tu as l'autorité d'administrer les ordonnances de la prêtrise d'Aaron. Tu seras une grande bénédiction pour les gens que tu côtoies. Notre Père Céleste a une grande confiance en toi et a une mission importante à te faire accomplir. Je sais que ces paroles sont vraies et je prie pour que chacun de vous ait ce même témoignage. Et je dis ces choses au nom sacré de celui dont nous détenons la prêtrise, Jésus-Christ. Amen. »
Le
chœur et l'assemblée vont maintenant chanter « Sauveur d'Israël ». Après ce chant, le président Dieter F. Uchtdorf, deuxième conseiller dans la première présidence, nous adressera la parole. Puis j'aurai le plaisir de vous faire un discours.
Il y
avait un homme qui rêvait depuis toujours de faire une croisière dans la Méditerranée. Il rêvait de marcher dans les rues de Rome, d'Athènes et d'Istanbul. Il économisa tout ce qu'il put jusqu'à avoir assez pour son voyage. Comme son budget était serré, il acheta une valise supplémentaire pour la remplir de boîtes de haricots, de paquets de biscuits et de sacs de limonade en poudre. Et c'était de cela qu'il se nourrissait chaque jour. Il aurait aimé participer aux nombreuses activités proposées sur le navire. Faire des exercices dans la salle de gym, jouer au golf miniature, nager dans la piscine. Il enviait les personnes qui allaient au cinéma, au spectacle et aux exposés culturels. Oh, comme il aurait aimé ne serait-ce que goûter à la nourriture extraordinaire qu'il voyait sur le navire. Chaque repas avait l'air d'un festin. Mais l'homme voulait tellement dépenser le moins possible qu'il ne participa à rien de tout cela. Il put voir les villes qu'il avait tant voulu visiter. Mais pendant la plus grande partie du voyage, il resta dans sa cabine et ne mangea que son humble nourriture. Le dernier jour de la croisière, un membre de l'équipage lui demanda à laquelle des fêtes d'adieu il allait participer. C'est à ce moment-là qu'il a appris que non seulement la fête d'adieu, mais aussi presque tout à bord du navire, la nourriture, les divertissements et toutes les activités étaient compris dans le prix de son billet. Cet homme découvrait trop tard qu'il avait vécu bien en deçà de ce à quoi il avait droit. La question que soulève cette parabole est la suivante. Vivons-nous en deçà de ce à quoi nous avons droit en ce qui concerne le pouvoir, les dons et les bénédictions sacrées auxquelles nous avons accès et droit, nous qui sommes détenteurs de la prêtrise de Dieu? Nous savons tous que la prêtrise est beaucoup plus qu'un simple nom ou titre. Le prophète Joseph a enseigné « La prêtrise est un principe éternel. Elle a existé avec Dieu de toute éternité à toute éternité et est sans commencement de jour ni fin d'année. Elle détient la clé de la connaissance de Dieu. En fait, par l'intermédiaire de la prêtrise, le pouvoir même de la divinité se manifeste. Les bénédictions de la prêtrise dépassent notre capacité de compréhension. Les détenteurs fidèles de la prêtrise de Melchisédek peuvent devenir les élus de Dieu. Ils sont sanctifiés par l'Esprit à tel point que leur corps est renouvelé et peuvent finalement recevoir tout ce que le Père a. Cela peut être difficile à comprendre, mais c'est beau et je témoigne que c'est vrai. Le fait que notre Père Céleste confie à l'homme ce pouvoir et cette responsabilité est une preuve de son grand amour pour nous et une préfiguration de notre potentiel de fils de Dieu dans l'au-delà. Cependant, trop souvent, nos actes semblent indiquer que nous vivons bien en deçà de ce potentiel. Quand on nous interroge sur la prêtrise, nous sommes beaucoup à pouvoir réciter une définition correcte, mais dans notre vie quotidienne, il y a parfois peu d'indications que notre compréhension dépasse le niveau d'un script appris par cœur. Frères, nous sommes face à un choix. Soit nous pouvons nous satisfaire d'une expérience moindre en tant que détenteur de la prêtrise et nous contenter de bien moins que ce à quoi nous avons droit, soit nous pouvons prendre part à l'abondance d'un festin de possibilités spirituelles et de bénédictions universelles de la prêtrise. Les paroles qui sont écrites dans... Que pouvons-nous faire pour atteindre notre potentiel? Les paroles qui sont écrites dans les Écritures et qui sont dites lors de la conférence générale doivent être appliquées à nous-mêmes et ne sont pas destinées seulement à être lues ou écoutées. Trop souvent, nous assistons aux réunions et nous hochons la tête. Il nous arrive peut-être même d'avoir un sourire entendu et d'être d'accord. Nous notons certaines actions que nous devrions faire et il se peut que nous nous disions « c'est quelque chose que je vais faire ». Mais quelque part entre l'écoute, la rédaction d'une alerte sur notre smartphone et le passage à l'acte, notre chose à faire est reléguée à la position plus tard. Mes frères, veillons à ce que notre chose à faire soit mise toujours à la position maintenant. Si vous lisez les Écritures et écoutez les paroles des prophètes de tout votre cœur et de tout votre esprit, le Seigneur vous dira comment vivre à la hauteur des droits que vous confère la prêtrise. Ne laissez pas passer un jour sans faire quelque chose pour suivre les murmures de l'Esprit. Premièrement, lire le manuel de l'utilisateur. Si vous possédiez l'ordinateur le plus perfectionné et le plus cher au monde, l'utiliseriez-vous simplement pour décorer votre bureau? Il se peut que cet ordinateur soit impressionnant et qu'il ait beaucoup de potentiel, mais c'est seulement quand on étudie le manuel de l'utilisateur que l'on apprend comment utiliser les logiciels et quand on allume la machine que l'on peut accéder pleinement à ce potentiel. La Sainte Prêtrise de Dieu a également un manuel de l'utilisateur. Engageons-nous à lire les Écritures et les manuels avec plus de détermination. Commençons par relire les sections 20, 84, 107. Et nous avons entendu un exemple magnifique, excellent de Doctrine Alliance 121 juste avant. Plus nous étudierons le but, le potentiel et l'utilisation pratique de la prêtrise, plus son pouvoir nous émerveillera et plus l'Esprit nous enseignera comment accéder à ce pouvoir et l'utiliser pour apporter des bénédictions à notre famille, à la collectivité et à l'Église. Notre peuple accorde à juste titre une grande priorité à l'instruction profane et au développement professionnel. Nous voulons et devons exceller dans l'érudition et le professionnalisme. Je vous félicite de vous esforcer diligemment de faire des études et de devenir expert dans votre domaine. Je vous invite à devenir également expert dans la doctrine de l'Évangile, particulièrement dans la doctrine de la prêtrise. Nous vivons à une époque de l'histoire du monde où les Écritures et les paroles des apôtres et des prophètes modernes n'ont jamais été aussi accessibles. Cependant, c'est notre droit, notre devoir et notre responsabilité de tendre la main pour nous saisir de leur enseignement. Les principes de la doctrine de la prêtrise sont sublimes et divins. Plus nous étudions la doctrine et le potentiel de la prêtrise, et plus nous appliquons son but, plus notre âme s'épanouit, plus notre compréhension augmente, plus nous voyons ce que le Seigneur a en réserve pour nous. Deuxièmement, veuillez rechercher les révélations de l'Esprit. Le témoignage sûr de Jésus-Christ et de son Évangile rétabli nécessite plus que de la connaissance. Il nécessite la révélation personnelle confirmée par une application honnête et dévouée des principes de l'Évangile. Joseph Smith, le prophète, a expliqué que la prêtrise est un canal par lequel le Tout-Puissant a commencé à révéler sa gloire au début de la création de cette terre et par lequel il a continué de se révéler aux enfants des hommes jusqu'à présent. Si nous ne cherchons pas à utiliser ce canal de révélation, nous vivons en deçà des droits que la prêtrise nous confère. Par exemple, certains croient mais ne savent pas qu'ils croient. Ils ont reçu diverses réponses par le murmure doux et léger sur une période prolongée, mais du fait que cette inspiration semble petite et insignifiante, ils ne la reconnaissent pas pour ce qu'elle est vraiment. Alors ils laissent les doutes les empêcher d'atteindre leur potentiel de détenteur de la prêtrise. La révélation et le témoignage ne sont pas toujours donnés avec une force écrasante. Chez beaucoup de personnes, le témoignage s'acquiert lentement, une bribe à la fois. On le reçoit parfois si graduellement qu'il est difficile de se souvenir du moment exact où l'on a su que l'Évangile est vrai. Le Seigneur nous donne ligne sur ligne, précepte sur précepte, un peu ici et un peu là. À certains égards, notre témoignage ressemble à une boule de neige qui grossit à mesure qu'elle roule. Nous commençons par une petite quantité de lumière, même si ce n'est que le désir de croire. Peu à peu, la lumière s'attache à la lumière. Et celui qui reçoit la lumière et persévère en Dieu reçoit davantage de lumière. Et cette lumière devient de plus en plus brillante jusqu'au jour parfait, où nous recevons sa plénitude en temps voulu. Pensez quelle chose merveilleuse c'est de dépasser nos horizons terrestres, de voir les yeux de notre intelligence s'ouvrir et de recevoir la lumière et la connaissance de sources célestes. Nous qui sommes détenteurs de la prêtrise, nous avons le droit et la possibilité de rechercher la révélation personnelle et d'apprendre comment connaître par nous-mêmes la vérité par le témoignage sûr du Saint-Esprit. Recherchons avec ferveur la lumière de l'inspiration personnelle. Implorons le Seigneur de doter notre esprit et notre âme de l'étincelle de foi qui nous permettra de recevoir et de reconnaître l'aide divine de l'Esprit Saint adaptée à notre situation, à nos difficultés et à nos devoirs de prêtrise. Troisièmement, trouver de la joie dans le service de la prêtrise. Pendant ma carrière de pilote d'avion, j'ai eu l'occasion d'être inspecteur formateur. Cela consistait notamment à former et à évaluer des pilotes expérimentés pour s'assurer qu'ils avaient la connaissance et les compétences nécessaires pour faire fonctionner ces magnifiques avions à réaction efficacement et en toute sécurité. J'ai constaté qu'il y avait des pilotes qui, même après de nombreuses années de métier, n'avaient jamais perdu l'enthousiasme de monter dans l'atmosphère, échappant ainsi aux liens revêches de la terre et dansant dans les cieux sur des ailes d'argent qui amusent. Ils aimaient le bruit impétueux de l'air, le grondement des moteurs puissants, l'impression de ne faire qu'un avec le vent, ainsi qu'avec le ciel obscurci et les étoiles devant. Leur enthousiasme était contagieux. Il y en avait aussi quelques-uns qui avaient l'air de ne rien faire de plus que les gestes. Ils maîtrisaient les procédures et les commandes des avions, mais quelque part en chemin, ils avaient perdu la joie de voler, là où ni l'alouette, ni même l'aigle n'a volé. En parcourant les océans et les continents, ils avaient cessé de s'émerveiller devant le rougeoiement du soleil levant et la beauté des créations de Dieu. S'ils remplissaient les conditions officielles, je leur donnais leur certification, mais néanmoins, j'étais triste pour eux. Il serait bon que vous vous demandiez si, en tant que détenteur de la prêtrise, vous ne faites rien de plus que les gestes. Si vous faites ce qui est attendu sans éprouver la joie, qui devrait être la vôtre? Le fait de détenir la prêtrise nous donne maintes occasions de ressentir la joie que décrit Amon quand il dit « N'avons-nous pas raison de nous réjouir? Nous avons été des instruments entre les mains du Seigneur pour accomplir cette œuvre grande et merveilleuse. C'est pourquoi glorifions-nous dans le Seigneur. Oui, nous nous réjouirons. » Frères, notre religion est une religion joyeuse. Quelle bénédiction de détenir la prêtrise de Dieu. Dans le livre des psaumes, nous lisons « Heureux le peuple qui connaît le son joyeux. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. » Nous pouvons éprouver cette joie plus intense si nous nous donnons la peine de la rechercher. Trop souvent, nous nous privons de la félicité que procure le service pratique quotidien de la prêtrise. Il peut arriver que les tâches à accomplir nous semblent être des fardeaux. Frères, ne passons pas notre vie dans la lassitude, l'inquiétude et les gémissements. Nous vivons en deçà de ce à quoi nous avons droit lorsque nous permettons à des ancres profanes de nous empêcher d'atteindre la joie abondante qui découle du service fidèle et dévoué dans la prêtrise, particulièrement au sein de notre foyer. Nous vivons en deçà de ce à quoi nous avons droit quand nous ne participons pas au festin de bonheur, de paix et de joie que Dieu accorde avec une telle abondance aux serviteurs fidèles de la prêtrise. Jeunes gens, si le fait d'arriver tôt à l'église pour préparer la Sainte Cène vous paraît plus une épreuve qu'une bénédiction, je vous invite à réfléchir à ce que cette ordonnance sacrée peut représenter pour un membre de la paroisse qui a eu une semaine difficile. Frères, si vos efforts d'enseignement au foyer ne vous semblent pas porter beaucoup de fruits, je vous invite à voir avec l'œil de la foi ce qu'une visite d'un serviteur du Seigneur fera pour une famille qui a de nombreux problèmes qui ne se voient pas. Si vous saisissez le potentiel divin de votre service dans la prêtrise, l'Esprit de Dieu remplira votre cœur et votre esprit, et cela rayonnera dans vos yeux et sur votre visage. Nous qui sommes détenteurs de la prêtrise, ne devenons jamais insensibles au caractère merveilleux et impressionnant de ce que le Seigneur nous a confié. Mes chers frères, puissions-nous chercher diligemment à apprendre la doctrine de la Sainte Prêtrise, fortifier notre témoignage ligne sur ligne en recevant les révélations de l'Esprit et trouver la véritable joie dans notre service quotidien dans la prêtrise. Ce faisant, nous commencerons à vivre à la hauteur de notre potentiel et de nos droits de détenteurs de la prêtrise. Et nous serons en mesure de faire tout par celui qui nous fortifie. J'en témoigne en ma qualité d'apôtre du Seigneur et vous donne ma bénédiction au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.
Je suis reconnaissant d'être parmi vous à l'occasion de cette réunion de la prêtrise de Dieu du monde entier. Nous sommes assemblés dans de nombreux endroits différents ce soir et à de nombreuses étapes de notre service dans la prêtrise. Pourtant, avec toute la diversité de nos situations, nous avons un besoin en commun, celui d'apprendre nos devoirs de la prêtrise et de progresser dans notre pouvoir pour les accomplir. J'ai profondément ressenti ce besoin quand j'étais diacre. Je vivais dans une toute petite branche de l'Église au New Jersey, sur la côte est des États-Unis. J'étais le seul diacre de la branche, pas seulement celui qui assistait, mais le seul qui était sur les registres. Mon grand frère était le seul instructeur. Je ne pense pas. Quand j'y étais, nous n'avons jamais eu de prêtre dans la branche. J'aurais aimé entendre le président Udorf et frère Dixon quand j'y étais, parce que je vivais en dessous du potentiel que j'avais. Et je me demande qui j'aurais pu convertir dans le voisinage. Je pense à Frank Turgeon, qui vivait de l'autre côté de la rue, est allé en prison, et un autre est allé en prison aussi. C'était un voisinage particulièrement rude. J'étais à l'époque un diacre, et ma famille a déménagé en Utah. Et là, j'ai trouvé trois choses merveilleuses pour accélérer ma progression dans la prêtrise. La première était un président qui savait siéger en conseil avec les membres de son collège. La deuxième était une grande foi en Jésus-Christ qui donnait aux membres un grand amour les uns pour les autres. Et la troisième était une conviction partagée que le but suprême de notre prêtrise était d'œuvrer au salut des hommes. Ce n'est pas la paroisse bien établie qui a fait que les choses étaient différentes. Ce qui se trouvait là aurait pu être n'importe où, dans n'importe quelle unité de l'Église dans laquelle vous vous trouvez. Ces trois choses font peut-être tellement partie de votre expérience dans la prêtrise que vous les remarquez à peine. Pour d'autres, vous ne ressentez peut-être pas le besoin de progresser. Alors ces aides peuvent vous sembler invisibles. Quoi qu'il en soit, je prie pour que l'Esprit m'aide à rendre ces aides claires et attrayantes pour vous. Mon but en parlant de ces trois aides à la progression dans la prêtrise est de vous exhorter à les apprécier et à vous en servir. Si vous le faites, votre service s'améliorera. Et si vous magnifiez votre service dans la prêtrise, elle sera une bénédiction plus grande que vous ne l'imaginez pour les enfants de notre Père Céleste. J'ai trouvé cette première chose quand on m'accueillit dans un collège de prêtres dont l'évêque était le président. Cela peut sembler peu de chose pour vous, mais cela m'a donné un sentiment de pouvoir dans la prêtrise qui a changé mon service dans la prêtrise depuis. Cela a commencé par la manière dont l'évêque nous dirigeait. Il m'a semblé qu'il traitait les opinions des jeunes prêtres comme s'ils étaient les hommes les plus sages de la terre. Et il attendait que tous ceux qui voulaient parler l'aient fait. Il écoutait. Et quand il décidait de ce qu'il allait faire, de ce qu'il fallait faire, il me semblait que l'Esprit nous confirmait les décisions à nous et à lui. Je me rends compte maintenant que j'ai ressenti ce que l'Écriture signifiait quand elle dit que le président doit siéger en conseil avec les membres de son collège. Et des années plus tard, quand j'étais évêque avec mon collège de prêtres, eux et moi avons appris ce que j'ai appris quand j'étais jeune prêtre. 20 ans plus tard, j'ai eu en tant qu'évêque l'occasion de constater l'efficacité d'un conseil, pas seulement à l'église, mais dans les montagnes. Un samedi, lors d'une activité, un membre de notre collège s'est perdu dans la forêt pendant la nuit. Nous savions qu'il était seul et sans vêtements chauds, ni nourriture, ni abri. Nous l'avons recherché sans succès. Je me souviens que nous avons prié ensemble et ensuite que chacun de nous a parlé. J'ai écouté attentivement et il m'a semblé qu'eux aussi. Au bout d'un moment, un sentiment de paix nous a envahis. J'ai senti que le membre du collège qui s'était perdu était en sécurité et au sec quelque part. Ce que le collège devait faire, ne pas faire, m'était devenu évident. Quand les gens qui l'ont trouvé ont décrit l'endroit dans les bois où il s'était réfugié, j'ai senti que je reconnaissais cet endroit. C'était un miracle pour moi de voir le pouvoir de la foi en Jésus-Christ, d'un conseil de prêtrise uni, apporter la révélation à l'homme qui détenait les clés de la prêtrise. Nous avons tous progressé dans le pouvoir de la prêtrise ce jour-là. La deuxième clé d'un apprentissage accru est d'avoir les uns pour les autres l'amour que procure une grande foi. Je ne suis pas sûr qui de l'amour de la foi vient en premier, mais il semble toujours être là lorsque l'on apprend beaucoup et rapidement dans la prêtrise. Joseph Smith nous a enseigné cela par l'exemple. Dans les premiers temps de l'Église, dans notre dispensation, il a reçu le commandement de Dieu d'édifier la force dans la prêtrise. Il devait créer des écoles pour les détenteurs de la prêtrise. Le Seigneur a exigé qu'il y ait de l'amour parmi les frères qui enseignaient et ceux qui étaient instruits. Voici les paroles du Seigneur à propos de la création d'un lieu d'apprentissage de la prêtrise et comment cela se passerait pour ceux qui allaient y étudier. Organisez-vous, établissez une maison de connaissances, une maison d'ordre. Désignez parmi vous un instructeur et que tous ne soient pas porte-parole en même temps, mais qu'une personne parle à la fois et que tous écoutent ce qu'elle dit, afin que lorsque tous ont parlé, tous soient édifiés par tous, et que chacun ait un droit égal. » Fin de citation. Le Seigneur décrit ce que nous avons déjà vu, c'est-à-dire la force qu'un conseil ou une classe de la prêtrise pour apporter la révélation par l'Esprit. La révélation est le seul moyen par lequel nous pouvons savoir que Jésus est le Christ. La foi est le premier échelon de l'échelle que nous gravissons pour apprendre les principes de l'Évangile. À l'exception 88 des Doctrines et Alliances, versets 123 et 124, le Seigneur met l'accent sur l'amour mutuel et l'abstention de critiques réciproques. Chacun a obtenu le droit d'entrer à l'école de la prêtrise établie par le Seigneur en contractant à main levée l'alliance d'être un ami et un frère dans les liens de l'amour. Fin de citation. Nous ne faisons plus cela de nos jours. Mais partout où j'ai vu un apprentissage remarquable dans la prêtrise, ces liens de l'amour sont présents. Encore une fois, j'ai vu en ces liens d'amour la cause et l'effet de l'apprentissage des vérités de l'Évangile. L'amour invite le Saint-Esprit à être présent pour confirmer la vérité. Et la joie d'apprendre ces vérités divines suscite l'amour dans le cœur des gens qui partagent l'expérience de l'apprentissage. Le contraire est tout aussi vrai. La discorde ou la jalousie inhibe la capacité du Saint-Esprit de nous instruire et nous empêche de recevoir la lumière et la vérité. Et dans les sentiments de déception qui en découlent invariablement, on trouve les germes d'une plus grande discorde et de plus de critiques parmi les personnes qui s'attendaient à une expérience d'apprentissage qui ne s'est pas produite. Il me semble que parmi les détenteurs de la prêtrise qui apprennent bien ensemble, il y a toujours de grands artisans de paix. On le voit dans les classes et les conseils de prêtrise. C'est le don d'aider les gens à trouver des points communs quand ils voient des différences. C'est le don d'aider les gens à trouver une contribution plus qu'un point à corriger dans ce que quelqu'un a dit. Avec l'amour pur du Christ en quantité suffisante et le désir d'être des artisans de la paix. L'unité est possible dans les conseils et dans les classes. Cela demande de la patience et de l'humilité, mais je l'ai vu se produire, même quand les problèmes sont difficiles et que les personnes qui forment les conseils ou les classes viennent de milieux extrêmement différents. Il est possible aux détenteurs de la prêtrise de s'élever au niveau très haut fixé par le Seigneur lorsqu'ils prennent des décisions dans les collèges. C'est possible quand il y a une grande foi et de l'amour et absence de querelles. Voici ce qu'exige le Seigneur pour qu'il valide nos décisions. Je cite, « Et toute décision prise par l'un ou l'autre de ces collèges doit l'être à l'unanimité des voix qui le composent. C'est-à-dire que chaque membre de chaque collège doit être d'accord avec ses décisions pour que les décisions prises aient le même pouvoir ou la même validité dans l'un que dans l'autre. » Fin de citation. La troisième aide dans l'apprentissage de la prêtrise découle de la conviction partagée à propos de la raison pour laquelle le Seigneur nous bénit et nous fait confiance pour détenir et exercer sa prêtrise. Cette conviction est de vrai au salut des hommes. Elle apporte de l'unité dans les collèges. Nous pouvons commencer à apprendre cela dans le récit scripturaire, détaillant la manière dont nous, les fils d'esprit, avons été préparés avant notre naissance pour cet honneur rare de détenir la prêtrise. Parlant des hommes qui ont reçu ce grand dépôt de la prêtrise ici-bas, le Seigneur a dit, avant même de naître, ils avaient reçu avec bien d'autres leur première leçon dans le monde des esprits et avaient été préparés pour paraître au temps fixé du Seigneur, pour travailler dans sa vigne, au salut de l'âme des hommes. » Fin de citation. Dans la prêtrise, nous partageons le devoir sacré d'œuvrer au salut des hommes. Nous devons faire plus qu'apprendre que c'est notre devoir. Il doit pénétrer dans notre cœur si profondément que ni les nombreux appels à nos efforts dans la fleur de l'âge, ni les épreuves qui accompagnent le vieillissement ne peuvent nous détourner de ce but. Il y a peu de temps, j'ai rendu visite à un grand prêtre chez lui. Il n'est plus en mesure de venir à nos réunions de collège. Il vit seul. Son épouse magnifique est décédée et ses enfants vivent loin de chez lui. L'âge et la maladie limitent sa capacité de servir. Il soulève toujours des poids pour conserver ce qu'il peut de sa grande force d'autrefois. Quand je suis entré dans sa maison, il s'est levé avec son déambulateur pour m'accueillir. Il m'a invité à m'asseoir sur une chaise près de lui. Nous avons parlé des occasions que nous avons eues d'être associés dans la prêtrise. Puis il m'a dit avec beaucoup d'intensité, « Pourquoi est-ce que je suis toujours vivant? Pourquoi est-ce que je suis toujours là? Je ne peux rien faire. » Je lui dis qu'il faisait quelque chose pour moi. Il m'édifiait par sa foi et son amour. Lors de ma brève visite, il m'avait donné envie d'être meilleur. Son exemple de détermination à faire quelque chose d'important m'a donné l'inspiration de faire plus d'efforts pour servir autrui et le Seigneur. La tristesse de sa voix et l'expression de son regard me disaient que je n'avais pas répondu à ses questions. Il se demandait toujours pourquoi Dieu le laissait vivre avec une capacité de servir si limitée. De sa manière généreuse habituelle, il m'a remercié d'être venu le voir. Au moment où je me levais pour partir, l'infirmière qui vient chez lui, quelques heures par jour, est sortie d'une autre pièce. Durant notre conversation privée, il m'avait parlé un peu d'elle. Elle avait vécu parmi des saints des derniers jours la majeure partie de sa vie, mais n'était toujours pas membre de l'Église. Elle s'est approchée pour m'indiquer la porte. Il a pointé un doigt vers elle et a dit en souriant, « Vous voyez, je ne peux rien faire. J'ai essayé de l'emmener à se faire baptiser dans l'Église, mais ça n'a pas marché. » Elle nous a souri à tous les deux. Je suis sorti et suis rentré chez moi. C'est alors que je me suis rendu compte que les réponses à ces questions avaient été semées dans son cœur il y avait longtemps. Ce grand prêtre vaillant essayait d'accomplir ce que son devoir lui avait appris pendant ses décennies dans la prêtrise. Il savait que le seul moyen pour que cette jeune femme ait la bénédiction du salut par l'évangile de Jésus-Christ était de contracter une alliance par le baptême. Il avait été instruit selon les alliances par chaque président de chaque collège, depuis celui des diacres jusqu'à celui des grands prêtres. Il se souvenait de son serment et de l'alliance de la prêtrise, et il le ressentait. Il les respectait toujours. C'était un témoin et un missionnaire du Sauveur, où que la vie le mène. C'était déjà dans son cœur. Le désir de son cœur était que le cœur de l'infirmière soit changé par l'expiation de Jésus-Christ et par le respect des alliances sacrées. Le temps qu'il aura passé dans l'école de la prêtrise ici-bas sera relativement court, comparé à l'éternité. Mais même dans ce bref laps de temps, il a maîtrisé le programme éternel. Il emportera avec lui, là où le Seigneur l'appellera, des leçons de la prêtrise d'une valeur éternelle. Non seulement vous devez vous empresser d'apprendre vos leçons de la prêtrise ici-bas, mais vous devriez aussi être optimiste quant à ce qui est possible. Nous devons être soucieux de ne pas vivre en dessous de notre potentiel. Quelques-uns d'entre nous peuvent limiter dans leur esprit les possibilités d'apprendre ce que le Seigneur nous propose dans son service. Un jeune homme quitta son petit village gallois, entendit les apôtres de Dieu et entra dans le royaume de Dieu sur terre. Il prit le bateau pour l'Amérique avec les saints et traversa les plaines vers l'ouest avec un chariot. Son service dans la prêtrise consistait aussi à défricher et à labourer la terre pour créer une exploitation agricole. Il vendit la ferme pour moins que sa valeur, pour aller en mission, pour le Seigneur, dans les déserts, et élever des moutons. Il fut appelé de là une mission de l'autre côté de l'océan, dans le village même qu'il avait quitté, dans sa pauvreté, pour suivre le Seigneur. Au milieu de tout cela, il trouva un moyen d'apprendre avec les frères de la prêtrise. En missionnaire audacieux qu'il était, au pays de Galles, il fit à pied le chemin qui menait à la résidence d'été d'un homme qui avait été 4 fois Premier ministre d'Angleterre, pour lui proposer l'évangile de Jésus-Christ. Le grand homme le laissa entrer dans sa maison. Il était diplômé de l'école d'Eton et de l'université d'Oxford. Le missionnaire discuta avec lui des origines de l'homme, du rôle essentiel de Jésus-Christ dans l'histoire du monde et même du destin des nations. À la fin de leur réunion, l'hôte déclina la proposition de baptême. Mais au moment de partir, le dirigeant d'un des plus grands empires du monde demanda à l'humble missionnaire, « Où avez-vous étudié ?» Il répondit, « Dans la prêtrise de Dieu. » Vous avez peut-être pensé à un moment donné Combien votre vie aurait été meilleure si seulement vous aviez été accepté pour étudier dans telle ou telle école. Je prie pour que vous voyiez la grandeur de l'amour de Dieu pour vous et l'occasion qu'il vous a donnée d'entrer dans son école. Si vous êtes diligent et obéissant dans la prêtrise, des trésors de connaissances spirituelles se déverseront sur vous. Vous progresserez dans le pouvoir de résister au mal et de proclamer la vérité qui conduit au salut. Vous trouverez de la joie dans le bonheur des personnes que vous menez à l'exaltation. Votre famille deviendra un lieu d'apprentissage. Je témoigne que les clés de la prêtrise ont été rétablies. Le président Thomas S. Monson détient et exerce ses clés. Dieu vit et vous connaît parfaitement. Jésus-Christ vit. Vous avez été choisi pour avoir l'honneur de détenir sa prêtrise sacrée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons maintenant avoir l'honneur d'entendre notre prophète bien-aimé Thomas S. Monson. Après le discours du président Monson, le chœur chantera « Sois loué pour ces collines ». Ensuite, Joseph W. Sitati, des 70, fera la prière de clôture. Président Monson.
We sat here this evening just before we
avant de commencer, nous avons été ensemble ce soir et nous demandions si nous pourrions un jour remplir ce bâtiment. Et en fait, il est rempli en effet, et même davantage. Et nous avons été nourris ce soir spirituellement, et toute la journée, dans toutes les sessions de la conférence, et en particulier dans cette réunion de prêtrise. Nous sommes un peuple béni. J'ai prié, j'ai beaucoup étudié sur ce que je pouvais vous dire ce soir. Je ne veux offenser personne. Et j'ai pensé à l'un des défis que nous avons. Et parfois je pleure tard dans la nuit. Et j'ai voulu vous en parler un petit peu ce soir. Certains s'appliqueront à plus jeunes, d'autres à ceux qui sont de jeunes adultes et d'autres. On parle pas à ceux qui sont plus vieux. Et j'aimerais ce soir commencer en déclarant, mes frères, c'était une bonne chose d'être ensemble ce soir. Nous avons entendu de magnifiques messages qui s'appliquent à nous d'être dans la prêtrise de Dieu. J'étais édifié et inspiré. Ce soir, je vais traiter des sujets auxquels j'ai beaucoup pensé dernièrement et que je me sens poussé à aborder avec vous. D'une façon ou d'une autre, ils ont tous trait à la dignité personnelle, qui est le critère d'éligibilité pour recevoir et exercer le pouvoir sacré de la prêtrise que nous détenons. Je vais commencer par lire la section 121 des Doctrines et Alliances. Les droits de la prêtrise sont inséparablement liés au pouvoir du ciel. Et les pouvoirs du ciel ne peuvent être maîtrisés ou utilisés que selon les principes de la justice. Il est vrai qu'ils peuvent nous être conférés, mais lorsque nous entreprenons de couvrir nos péchés ou d'assouvir notre orgueil, notre vaine ambition, ou d'exercer avec quelque degré d'injustice que ce soit une emprise, une domination, une contrainte sur l'âme des enfants des hommes, voici, les cieux se retirent, l'Esprit du Seigneur est attristé, et lorsqu'il est retiré, c'est la fin de la prêtrise ou de l'autorité de cet homme. Fin de citation. Mes frères, c'est la parole catégorique du Seigneur concernant son autorité divine. Nous ne pouvons pas être dans le doute quant à l'obligation que cela impose à chacun d'entre nous qui détenons la prêtrise de Dieu. Nous sommes venus sur terre en des temps troublés. La boussole morale des masses s'est peu à peu déplacée sur la position « presque tout est bon ». Je vis depuis assez longtemps pour avoir assisté à une grande partie de la métamorphose de la morale de la société. Alors qu'autrefois, les principes de l'Église et ceux de la société étaient essentiellement compatibles, à présent, il y a un grand fossé entre nous et il ne cesse de s'élargir. Beaucoup de films et d'émissions de télévision décrivent un comportement qui est en opposition directe avec les lois de Dieu. Ne vous soumettez pas aux allusions grivoises et à l'obscénité patente qu'on y trouve si souvent. Les paroles de beaucoup de chansons d'aujourd'hui tombent dans la même catégorie. Le langage ordurier si répandu autour de nous n'aurait jamais été toléré il n'y a pas si longtemps. Malheureusement, on prend sans arrêt le nom du Seigneur en vain. Vous vous rappellerez avec moi le commandement, l'un des 10, que le Seigneur a révélé à Moïse sur le mont Sinaï. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Fin de citation. Je regrette que certains d'entre nous se laissent aller à un langage grossier et je vous supplie de ne pas l'employer. Je vous supplie de ne rien dire ni faire dont vous ne puissiez pas être fiers. Abstenez-vous complètement de la pornographie. Ne vous laissez jamais aller en regarder, jamais. Elle s'est révélée être une dépendance très difficile à vaincre. Abstenez-vous d'alcool, de tabac et de toute autre drogue, ainsi que de dépendances que vous auriez bien du mal à surmonter. Qu'est-ce qui vous protégera du péché et du mal qui vous entoure? Je maintiens qu'un fort témoignage de notre Sauveur et de son Évangile contribuera à votre sécurité. Si vous n'avez pas lu le livre de Mormon, lisez-le. Je ne vous demanderai pas de lever la main. Si vous le lisez dans la prière et avec le désir sincère de connaître la vérité, le Saint-Esprit vous en manifestera la vérité. S'il est vrai, et il l'est, Joseph Smith était un prophète et a vu Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ. L'Église est vraie. Si vous n'avez pas encore de témoignage de ces choses, faites ce qui est nécessaire pour en obtenir un. Il est essentiel que vous ayez votre témoignage, car le témoignage des autres ne vous portera que jusqu'à un certain point. Ensuite, une fois que vous aurez obtenu votre témoignage, il faudra le garder vivant par l'obéissance aux commandements de Dieu et par la prière fervente et l'étude régulière des Écritures. Allez à l'Église, jeunes gens. Vous devez aussi assister au séminaire ou à l'Institut, s'ils sont disponibles. Si quelque chose n'est pas en ordre dans votre vie, une porte de sortie vous est offerte. Cessez toute iniquité. Parlez à votre évêque. Quel que soit le problème, il peut se régler par le repentir adéquat. Vous pouvez redevenir pur. Le Seigneur a dit à l'adresse des gens qui se repentent, « Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Et moi, le Seigneur, je ne m'en souviens plus. Le Sauveur de l'humanité a dit qu'il était dans le monde, mais pas du monde. Nous aussi, nous pouvons être dans le monde, mais pas du monde, en rejetant les fausses idées et les faux enseignements, et en restant loyaux à ce que Dieu a commandé. Ces temps-ci, j'ai pensé beaucoup à vous, jeunes gens, qui êtes en âge de vous marier, mais qui n'avez pas encore eu l'envie de le faire. Je vois de charmantes jeunes filles qui désirent se marier et élever des enfants, mais les possibilités de le faire sont limitées parce que beaucoup de jeunes hommes remettent le mariage à plus tard. Ce n'est pas nouveau. Beaucoup a été dit sur le sujet par d'anciens présidents d'église. Voici juste un ou deux exemples des conseils qu'ils nous ont donnés. Harold Billy a dit, « Nous ne faisons pas notre devoir de détenteur de la prêtrise quand nous dépassons l'âge du mariage et que nous nous abstenons de contracter un mariage honorable avec l'une de ces femmes charmantes. » Fin de citation. Gordon Binkley a dit, « J'ai de la compassion pour nos sœurs seules qui aspirent au mariage et ne le trouvent pas. J'ai beaucoup moins de sympathie pour les jeunes hommes qui, selon les coutumes de notre société, ont la prérogative de prendre l'initiative dans ce domaine, mais qui, dans tant de cas, ne la prennent pas. » Fin de citation. Je suis conscient qu'il y a de nombreuses raisons pour lesquelles vous hésitez peut-être à franchir l'étape du mariage. Si vous inquiétez de ne pas pouvoir subvenir aux besoins financiers d'une femme et d'enfants, je vous assure qu'un couple ne doit pas avoir honte parce qu'il doit faire des économies sur tout. C'est généralement pendant ces temps difficiles que votre femme et vous vous rapprocherez en apprenant à faire des sacrifices et à prendre des décisions difficiles. Peut-être avez-vous peur de faire le mauvais choix. À cela, je dis qu'il faut que vous exerciez la foi. Trouvez quelqu'un avec qui vous pouvez être compatible. Soyez conscient que vous ne pourrez pas prévoir toutes les difficultés qui peuvent se présenter, mais soyez certain que tout peut se régler si vous êtes ingénieux et si vous êtes bien décidé à réussir votre mariage. Peut-être vous vous amusez un peu trop en tant que célibataire, prenant des vacances extravagantes, achetant des voitures et des jouets coûteux, et tout simplement jouissant d'une vie sans souci avec vos amis. J'ai rencontré des groupes de jeunes hommes, toujours ensemble. Et j'avoue que je me suis demandé pourquoi vous ne sortez pas avec de belles jeunes femmes. Mes frères, il y a un moment où il faut penser sérieusement au mariage et rechercher un conjoint avec qui l'on voudra passer l'éternité. Si vous choisissez judicieusement et si vous êtes bien décidé à ce que votre mariage réussisse, il n'y a rien dans la vie qui vous apportera plus de bonheur. Quand vous marierez, mes frères, vous voudrez le faire dans la maison du Seigneur. Pour vous qui détenez la prêtrise, il ne doit pas y avoir d'autre option. Soyez prudents, de crainte de perdre votre éligibilité pour vous marier ainsi. Pendant la période des fréquentations, vous pouvez rester dans les limites du convenable, tout en ayant beaucoup de joie. À présent, mes frères, j'aborde un autre sujet que je me sens inspiré à traiter. Je crois que ma responsabilité la plus triste et la plus décourageante au cours des 3 années où j'ai été soutenu comme président de l'Église a été de traiter les annulations de scellement. Chacun a été précédé par un mariage joyeux dans la maison du Seigneur, au cours duquel un couple qui s'aimait a commencé une nouvelle vie à deux, heureux à l'idée de passer le reste de l'éternité ensemble. Puis les mois, les années passent, et pour une raison ou pour une autre, l'amour meurt. Cela peut être le résultat de problèmes financiers, d'un manque de communication, d'un manque de maîtrise de soi, de l'immixtion de la belle famille, du péché. Il y a bien des raisons. Dans la plupart des cas, le divorce n'est pas inéluctable. La vaste majorité des demandes d'annulation de scellement émanent de femmes qui ont désespérément essayé de faire réussir le mariage, mais qui, au bout du compte, n'ont pas réussi à surmonter les problèmes. Choisissez votre conjoint soigneusement et dans la prière. Et une fois mariés, soyez farouchement loyaux l'un à l'autre. J'ai vu un jour un conseil précieux sur une petite plaque encadrée dans la maison de mon oncle et de ma tante. C'était « Choisis qui tu aimes, aime qui tu as choisi ». Il y a une grande sagesse dans ces quelques mots. Dans le mariage, l'engagement est absolument essentiel. Votre femme est votre égale. Dans le mariage, aucun des partenaires n'est supérieur ni inférieur à l'autre. Vous marchez côte à côte en fils et fille de Dieu. Vous ne devez ni rabaisser ni insulter votre femme. Vous devez la respecter et l'aimer. Gordon Binkley a dit, le saint des derniers jours qui fait subir des sévices à sa femme et qui exerce une domination injuste sur sa femme est indigne de détenir la prêtrise. Même s'il a été ordonné, les cieux se retireront, l'esprit du Seigneur sera attristé et ce sera la fin de la prêtrise de cet homme. Fin de citation. Howard W. Hunter a dit au sujet du mariage, le bonheur conjugal est généralement moins affaire d'épouser la bonne personne que d'être la bonne personne. J'aime beaucoup cela. L'effort conscient pour faire pleinement sa part est l'élément qui contribue le plus à la réussite. Fin de citation. Il y a de nombreuses années, dans la paroisse dont j'étais l'évêque, il y avait plus de 1000 membres dans cette paroisse. C'était une grande paroisse. Un jeune évêque. Il y avait un couple qui avait souvent des disputes très graves et très violentes. Mais vraiment, des disputes. Le mari et la femme étaient tous deux sûrs de leur bon droit. Aucun des deux ne voulait céder. Quand ils ne se disputaient pas, ils maintenaient ce que j'appellerais une trêve précaire. Un matin, à 2 heures, j'ai reçu un coup de téléphone du couple. Ils voulaient me parler. Et immédiatement, je me suis tiré du lit, je me suis habillé, je suis allé chez eux. Ils étaient assis de chaque côté de la pièce. Ils refusaient de se parler. La femme communiquait avec son mari en me parlant. Il lui répondait en me parlant. Je me suis demandé, comment allons-nous donc les réconcilier ? J'ai prié pour recevoir l'inspiration. Et j'ai eu l'idée de leur poser une question. Je leur ai demandé, « Depuis combien de temps n'êtes-vous pas allé au temple et n'avez-vous pas assisté à un scellement dans le temple ?» Ils ont admis que cela faisait longtemps. Ils étaient par ailleurs dignes détenait une recommandation à l'usage du temple et s'y rendait et faisait des ordonnances pour les autres. Je leur ai demandé, « Voulez-vous venir au temple avec moi mercredi matin à 8 h ? » Nous y assisterons à une cérémonie de scellement. Ils ont demandé à l'unisson, « Au scellement de qui ?» J'ai répondu, « Je ne sais pas. » De quelqu'un qui se mariera ce jour-là. Le mercredi suivant, à l'heure dite, nous sommes retrouvés au temple de Salt Lake City. Nous sommes entrés tous les trois dans l'une des belles salles du scellement où nous ne connaissions personne d'autre que L. Ray L. Christensen, alors assistant du Collège des 12, un poste d'autorité générale de l'époque. Il devait célébrer une cérémonie de scellement, lui qui plus tard devait devenir président du temple, pour un couple dans cette salle ce matin-là. Quand nous sommes entrés tous les trois, je suis sûr que la mariée et la famille se sont dit, ils doivent être des amis du marié. Et que la famille du marié s'est dit, ils doivent être des amis de la mariée. Le frère et la sœur que j'accompagnais étaient assis à une trentaine de centimètres l'un de l'autre sur un petit banc. Frère Christensen a commencé par donner des conseils au couple qui se mariait. Et il l'a fait d'une manière magnifique. Il a mentionné que le mari doit aimer sa femme, la traiter avec respect et courtoisie, l'honorer comme l'âme du foyer. S'adressant à la jeune femme, il lui a dit qu'elle devait honorer son mari comme chef de famille et être à tous égards un soutien pour lui. Tandis que frère Christensen s'adressait aux époux, j'ai remarqué que mon couple se rapprochait peu à peu. Bientôt, ils se sont retrouvés assis l'un à côté de l'autre. Ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'ils s'étaient rapprochés à la même vitesse. À la fin de la cérémonie, ils étaient assis aussi près l'un de l'autre que s'ils étaient eux les jeunes mariés. Chacun des deux souriait. Nous avons quitté le temple sans que personne sache qui nous étions et pourquoi nous étions venus. Mais mes amis sont ressortis main dans la main. Ils avaient mis de côté leurs différends. Je n'avais pas eu à dire un mot. Vous voyez, ils s'étaient rappelés le jour de leur mariage et les alliances qu'ils avaient faites dans la maison de Dieu. Ils s'étaient engagés à prendre un nouveau départ et à faire plus d'efforts cette fois. Si l'un d'entre vous, mes frères, a des difficultés conjugales, je l'exhorte à faire tout son possible pour réparer ce qui doit l'être, afin d'être aussi heureux qu'au début du mariage. Nous qui nous marions dans la maison du Seigneur, nous le faisons pour le temps et pour toute l'éternité. Et ensuite, nous devons faire les efforts nécessaires pour que cela se réalise. Je suis conscient qu'il y a une situation où le mariage ne peut être sauvé, mais je suis convaincu que la plupart des mariages peuvent et doivent l'être. Ne laissez pas votre mariage arriver au point où il est menacé. Il nous incombe à chacun de nous qui détenons la prêtrise de Dieu de nous maîtriser afin d'être au-dessus des voies du monde. Il est essentiel que nous soyons des hommes honorables et respectables. Nos actes doivent être au-dessus de tout reproche. Les paroles que nous prononçons, la façon dont nous traitons les autres et la façon dont nous vivons, tout cela influe sur notre efficacité d'hommes et de garçons qui détient la prêtrise. Le don de la prêtrise est sans prix. Il s'accompagne de l'autorité d'agir en serviteur de Dieu, de bénir les malades, de bénir notre famille et les autres. Son autorité peut s'étendre au-delà du
voile
du monde entier. Sauvegardez-le, chérissez-le et vivez de manière à en être digne. Mes frères bien-aimés, que la justice guide chacun de nos pas tout au long de notre vie. Aujourd'hui et toujours, nous devons être dignes réceptacles du pouvoir divin de la prêtrise que nous détenons. Puisse-t-il bénir notre vie et puissions-nous l'exercer pour bénir autrui, comme l'a fait celui qui a vécu et est mort pour nous. Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. C'est là ma prière, en son nom sacré et saint. Amen.
Notre Père Céleste bien-aimé, nous, tes fils, rassemblés ici et dans beaucoup d'autres endroits sur toute la terre, nous t'exprimons notre grande reconnaissance pour le privilège de détenir ta sainte prêtrise. Nous te remercions, Père, pour les clés que tu as confiées à notre prophète bien-aimé, le président Thomas S. Monson. Nous te remercions pour le pouvoir qui lui est donné et ce pouvoir qui est sur le conseil des 12, le collège des 12. Nous sommes reconnaissants pour la lumière et la vérité qui vient de toi et qui est représentée par eux. Nous prions, Père, que nous puissions être capables d'être fortifiés et édifiés parce qu'il nous a été enseigné par eux, c'est aujourd'hui, que comme le monde devient plus troublé et que beaucoup ont peur, que nous puissions rester solides, fermes, et tandis que nous vivons ton évangile, au nom de ton Fils, notre Sauveur et Rédempteur Jésus-Christ. Amen.